C'est pas un peu voyant, cette main verte qui traîne chez vous? Alain Baraton, bonjour Alain.
On a créé quelques soucis. Bonjour Yves, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Ce matin, à propos des jardins de Colette. Alors, non pas à Saint-Sauveur en Puisée en Bourgogne, on part en Corrèze, à Varetz.
Eh oui, ils ont été créés en 2007 par la communauté d'agglomération du bassin de Brive et la mairie de Varetz. Les jardins de Colette, donc c'est le nom, sont un subtil mélange de littérature et de botanique et ils sont divisés en 6 parties distinctes. Chacune symbolisant une région ou un lieu cher au cœur de la romancière. Le Palais Royal avec le jardin à la française, la Corrèze et son jardin verdoyant, la Bourgogne et les souvenirs d'enfance, la Bretagne et ses paysages de bord de mer, la Franche-Comté pour sa nature sauvage et bien sûr la Provence avec le jardin sensoriel. Les jardins de Colette, c'est aussi un gigantesque labyrinthe de 5000 mètres carrés, de quoi amuser grands et petits, des petits qui peuvent aussi se distraire avec bien d'autres jeux de plein air.
Et donc, pourquoi avoir donné ce nom à ce jardin?
Colette a vécu à Varetz de 1911 à 1923 et c'est en hommage à cette immense femme de lettres qu'il a été décidé d'aménager ce jardin. Alors, Colette, je ne vous cacherai pas que j'ai une tendresse particulière pour cette femme, Colette a écrit des textes magnifiques.
C'est vrai.
Et j'ai trouvé dans les vrilles de la vigne un recueil de nouvelles paru en 1908, une fort jolie phrase, que dis-je, une perle.
Tu m'as donné les fleurs désarmées, tu m'as donné pour que j'y repose haletante la place à l'ombre, sous le lilas de Perse aux grappes mûres, tu m'as cueilli les larges bleuets des corbeilles, fleurs enchantées dont le cœur embaume l'abricot.
C'est magnifique.
C'est sublime.
Il faudrait enrouler les airs si c'était
la voie de Colette.
Alors, pour ceux qui seraient intéressés de découvrir ces jardins, les jardins de Colette, ils sont ouverts déjà en septembre du mardi au dimanche de 10h à 18h. Et ils sont situés, je l'ai dit, sur la commune de Varetz. Et c'est à 10 minutes de Brive-la-Gaillarde.
Vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. Pierre évoque l'inauguration d'une future médiathèque. Il est question d'aller placer un olivier de 300 ans au milieu du jardin. Nous sommes dans les Hauts-de-France, dit-il, près de Lille. Qu'en pensez-vous, Alain Baraton?
Je ne sais quoi dire. Je ne suis pas contre l'idée de planter un olivier de 300 ans en admettant que cet arbre provienne d'un lieu où il n'a pas été arraché pour des raisons spéculatives, mais pour éviter qu'il ne soit malheureusement détruit. Il existe effectivement quantité de producteurs d'olives, par exemple dans le sud, en Espagne ou en Italie, qui renouvellent et qui peuvent se séparer de leur arbre. Donc effectivement, il vaut mieux que l'arbre soit replanté ailleurs. Mais il existe quand même un commerce odieux des oliviers. Je ne parle pas de ceux qui sont centenaires, mais millénaires. Ça, c'est odieux, inadmissible, inacceptable. Et je ne comprends pas comment, en Europe, on peut arracher un olivier en Espagne vieux de 1000 ans, ça existe, pour le replanter au nord de la France. Alors maintenant, l'olivier à Nîmes, est-ce que c'est
300
vraiment,
ans.
Oui, est-ce que c'est vraiment le climat pour avoir un olivier? Alors, on parle du réchauffement climatique. Moi, je suis un régionaliste convaincu du monde végétal. J'aime l'idée, quand j'arrive dans un pays, dans une région, dans un département, d'avoir les fleurs, les arbustes et les arbres qui sont les symboles même de cette région. Le sud-ouest, pour moi, ce sont les arbousiers, ça peut être le genêt, la bruyère, les pins. Alors arrêtons de planter n'importe quoi, n'importe où. Disons-nous que la région du Nord est très très belle et qu'il n'est pas nécessaire de planter un olivier pour faire encore...
Vous êtes un peu conservateur, quoi.
Ah, complètement.
Non,
je suis même limite vuréac, mais je l'assume. Je l'assume pleinement.
Marilyn voudrait vous parler de son marronnier qui a pris la foudre et ça lui a fait mal. Vieil arbre d'au moins 200 ans, j'aimerais savoir si ce marronnier à long terme va pouvoir survivre à cet accident.
Je suis très inquiet. Déjà, le marronnier est un arbre qui vieillit mal. Le marronnier, avec les années, a le bois qui devient cassant. Le marronnier est confronté à des attaques de petits, de mouchons. On parle de la mineuse. Il est sujet à quantité de maladies cryptogamiques. C'est également une plante qui souffre difficilement, qui souffre du réchauffement climatique. Je ne sais quoi dire, mais je pense que malheureusement, quand un vieux marronnier, ce qui est rare déjà, de 200 ans, subit une agression aussi violente qu'un coup de foudre, j'ai bien peur que son avenir soit limité.
Linda, en quelques secondes, comment puis-je me débarrasser des fourmis qui envahissent mon jardin potager sans utiliser, dit-elle, de produits chimiques?
On les laisse tranquilles, je vois pas en quoi les fourmis dans un potager peuvent gêner.
Ça grignote rien, une fourmi?
Non, elles attirent les pucerons, c'est vrai. Détruisez leur habitat, mettre un coup de pied dans la fourmilière.
Ça marche,
ça marche. Vous le faites, et à force de nuire à leur habitat, elles iront peut-être ailleurs. Mais les fourmis contribuent à faire venir, par exemple, les petits oiseaux qui, eux, vont manger les chenilles nuisibles aux cultures.
La chaîne alimentaire.
Tout a une importance dans le jardin.
On termine par un conseil.
Romain Mer. Alors, Romain Mer, c'est un dingue, il n'y a pas d'autre mot, un dingue d'orchidées. Il a écrit Orchide Addict. C'est tout simplement les conseils d'un homme qui vit pour les orchidées. C'est publié chez Ulmer. C'est joliment photographié, c'est joliment écrit. On apprend plein de choses sur les orchidées. Bravo, bravo. Orchide Addict de Romain Mer chez Ulmer.
À samedi prochain, la baraton.
À samedi.